Selon des sources bien autorisées, Nicolas Sarkozy vient de choisir le prochain emblème de l'UMP. Ce sera un préservatif. En effet, il tolère l'inflation, vide les bourses, ralentit la production, détruit la prochaine génération et protège les glands. Enfin, il vous donne un sentiment de sécurité alors que vous êtes en train de vous faire baiser.
Ben, décidément, Daniel, tu fais la pub à Sarkozy. Et puis alors, tu filtres soigneusement les messages. Il n'y a rien qui pourrait être pour Ségolène qui parlerait de ce qu'elle fait de bien, de ses propositions. Il n'y a rien qui passe. C'est tout des trucs de mépris. Alors, il paraît que ceux qui sont contre elle au Parti Socialiste, on les appelle les éléphants. Et ceux qui sont pour Sarkozy en se faisant passer de gauche, on appelle ça des taupes, non? T'es pas un peu myope comme une taupe? Ou alors, si vraiment tu le fais pas exprès, c'est que vraiment, je sais pas moi, il te manque quelque chose, là, tu vois. Ça va vraiment pas, hein. Ciao.
Pierre de Nancy, je réagis à l'intervention de Dominique Pouillon, le conseiller scientifique d'attaque, et qui me paraît ne pas avoir lu correctement les programmes des candidats. C'est un peu ennuyeux pour un scientifique. Dans la proposition 95 de Ségolène Royal, il est indiqué noir sur blanc, mettre en place une taxe sur les flux financiers de type Tobin. Il me semble que cette proposition pourrait intéresser Attac.
Oui, bonjour les amis de la Bastille Suisse, c'est Eric de Franou à Gérardmer dans les Vosges. Donc c'est pour dire que demain soir au bar Le Grattoir, donc jeudi à 20h30, on se retrouve comme d'habitude tous les derniers jeudis de chaque mois. Alors le sujet est libre, mais peut-être qu'on parlera un petit peu de ce qui se passe à ce moment au niveau des élections. Et on va peut-être discuter pour dire si tous les gens avaient voté exactement comme ils le pensaient, quel serait le résultat aujourd'hui. Et voilà, bon, on discutera de ça et d'autres choses. Donc à tous, rendez-vous demain soir au Grattoir à 20h30. Merci, à la prochaine. Ciao, bye bye.
Eh bien, merci, amis modestes et géniaux auditeurs de là-bas, si j'y suis. Aujourd'hui, deux sujets en une heure. Deux sujets en une heure. L'un sera Fidel Castro. Ah, ah, un gros morceau, Fidel Castro, à l'occasion de la sortie du livre d'Ignacio Ramonet, Biographie à deux voix, aux éditions Fayard, où Ignacio Ramonet a recueilli pendant pas mal de temps les confidences et une sorte, on peut dire, de biographie ou d'autobiographie de Fidel Castro. Alors évidemment, c'est un sujet toujours controversé, passionnel en France. Il se trouve que Cuba et le personnage de Castro suscite toujours des passions. Donc on en parlera avec Ignacio Ramonet. Et puis on va aussi évoquer le 70e anniversaire d'un événement très important du XXe siècle, c'est Guernica. Guernica, tout le monde voit ce que c'est que Guernica, voit Guernica à cause évidemment du chef-d'œuvre de Pablo Picasso, peint en 1937, il y a donc 70 ans, à l'occasion de l'exposition universelle de Paris. Et le 4 juin, avec quelques jours de retard, Picasso faisait entrer cette œuvre dans le pavillon de la République espagnole, qui était donc à Paris, non loin du pavillon soviétique qui faisait face au pavillon de l'Allemagne nazie. Alors c'est un anniversaire aujourd'hui qu'on va évoquer ensemble, à commencer par ceci.
El domingo 26 de abril de 1937 era como todos los domingos, día de mercado en Guernica. A las 5 de la tarde, de las cuatro colinas que forman el horizonte de Guernica.
Le dimanche 26 avril 1937, c'était comme tous les dimanches, jour de marché à Guernica. À 5 heures de l'après-midi, des quatre colines qui forment l'horizon de Guernica.
La radio franquiste de Salamanque déclare. L'Espagne n'est pas dans les édifices ni dans les villes. Elle se trouve dans les idées et dans le génie de Franco. Nous sommes en guerre, en avant, et jusque par-dessus le mort.
Franco encarga a los alemanes de la Legión Cóndor que bombardean sistemáticamente la población civil.
Franco demande aux Allemands de la Légion Condor qu'ils bombardent systématiquement la population civile.
Por primera vez en la historia del mundo podrá proceder a una nueva experiencia. La desmoralización del enemigo por los bombardeos aéreos sistemáticos de la población civil.
Por la primera vez en el mundo, va a ser practicada una nueva experiencia. La démoralisation de l'ennemi par le bombardement systématique des populations civiles.
La Légion Condor expérimente une nouvelle méthode dite du tapis de bombe.
Dimanche 26 avril 1937, c'était un dimanche comme les autres, le jour du marché à Guernica.
La folle terreur du piège dans un regard d'oiseau. Voilà ce que disait Jacques Prévert en regardant ce que regarde un oiseau dans le regard de Picasso. La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. C'est un instrument de guerre, offensif et défensif contre l'ennemi, disait Pablo Picasso en peignant Guernica, 7,82 m sur 3,51 m. C'est vous qui avez fait ça ? Lui demande un officier allemand devant Guernica. C'est vous qui avez fait ça ? Non, répond Picasso. C'est vous. Un dimanche comme les autres, il y a 70 ans, après aujourd'hui, on songe à Guernica. C'était le 26 avril 1937. Carpet bombing, c'est là que l'humanité a inventé ça, le tapis de bombe. C'est une date dans l'histoire de la guerre, Guernica. Guernica fut la première ville au monde détruite par une attaque aérienne. Une ville avec des gens dedans, des civils, des femmes, des enfants, des chevaux, des taureaux. Le cheval, c'est le peuple qui souffre. Le taureau, c'est le peuple triomphant. Depuis des années, voilà des phrases qu'on entend devant la toile de Picasso. Depuis donc 70 ans. Le cheval, c'est le peuple qui souffre. Et le taureau, c'est le peuple triomphant. À Paris, depuis juin 37. Depuis le 4 juin 1937. Puis à New York, au MoMA, jusqu'en 1981, puis aujourd'hui à Madrid, et peut-être demain, comme en rêvent les Basques, quelque part au Pays Basque. Chaque jour, des centaines de visiteurs, même des touristes en caouet, même des ados étourdis, même des rombières en perlousée, se taisent, bouche bée, et quelqu'un dit ça. Le cheval, c'est le peuple qui souffre, et le taureau à gauche, en haut, c'est le peuple triomphant. En haut à gauche, oui. Picasso croyait à ça, le peuple en haut à gauche. Et Prévert aussi, à propos de la lampe sanglante de Guernica, qui se balance en haut du tableau. La lampe sanglante de Guernica, disait Prévert, est le spectre solaire des hommes au bas salaire qui surgit tout sanglant des sanglantes entrailles d'une maison ouvrière, tenant à bout de bras la pauvre lueur de la misère de la lampe sanglante de Guernica, et découvre au grand jour de sa lumière crue et vraie les épouvantables fausses teintes d'un monde décoloré, usé jusqu'à la corde, vidé jusqu'à la moelle, d'un monde mort sur pied, d'un monde condamné et déjà oublié, noyé, carbonisé au mille feux de l'eau courante du ruisseau populaire, où le chant populaire court inlassablement, intarissablement, dans les artères, dans les veines de la terre, et dans les artères et dans les veines de ces véritables enfants, dessinés simplement sur une feuille de papier blanc. Oui, Ainsi, on comprend que c'est pas seulement Guernica que peint Picasso, pas seulement l'horreur de la guerre, la barbarie de la guerre. Il peint aussi ce qu'il y a derrière. L'ennemi n'est pas seulement l'avion, l'ombre fameuse des trois avions allemands sur les maisons de Guernica et les bombes incendiaires sur les étables, sur les innocents, sur les yeux de la tête des enfants, les poings repliés, sur le glaive brisé avec une petite fleur coincée, fanée ou pas, on ne sait pas. Pas seulement la guerre, mais ce qu'il y a derrière. Pas seulement dire que la guerre c'est mal et que c'est ainsi. Picasso dit qu'il y a des causes et les montre du doigt de son pinceau. Il s'engage, pas seulement l'indignation, la compassion, la déploration. La mort et la hideur de nos ennemis ont la couleur monotone de notre nuit, disait à cet instant-là Paul Éluard. On rendait aussi hommage à Garcia Lorca. Non, il y a des raisons, il y a des causes, il y a des ennemis, et pas seulement au plan militaire, mais au plan politique. Guernica, la toile, la fresque de Picasso, Guernica, à partir de photos vues dans les journaux dont il s'inspire, et il s'inspire aussi de Goya, et de Rubens, et de Raphaël, et du surréalisme, et des Pietà, des églises, des vierges à l'enfant mort, avec sur leurs joues ces larmes de sang peintes en rouge, des joues de paysannes, des vierges, des mères. Et il s'inspire aussi des dessins d'enfants que l'enfant mort ne dessinera plus jamais. Alors Picasso dessine à sa place, le prolonge, langue pointue du cheval, langue pointue de la mer, pieds sur terre des paysans, hurlements des flammes. Guernica, en rejoignant la guerre universelle contre la guerre, ne s'est pas dissoute dans un universalisme abstrait, bien pensant des rebelles de cocktail. Guernica, c'est l'engagement. Avril 1937, en pleine guerre civile, entre 16h15 et 19h30, Guernica est écrasé sous un tapis de bombes incendiaires. Il s'agit de tout détruire, il s'agit de tout anéantir, tout détruire, toute vie, tout habitat, les maisons, les hommes. C'est une extermination. 400 maisons sur 500 sont détruites. Un millier, pense-t-on, de morts en l'espace de 2 heures, des civils. Guernica, la première ville au monde détruite par une attaque aérienne. En février 1936, le Front populaire l'emporte légalement en Espagne, mais presque aussitôt, en juillet 1936, Franco, le général Franco, lance un coup d'état militaire. On ne va pas raconter ici la guerre civile espagnole, mais il ne faut jamais oublier que à part les jeunes des brigades internationales qui sont venus soutenir la République espagnole, les gouvernements français et britanniques avaient abandonné l'Espagne. En avril 1937, le Pays Basque est encore fidèle à la République espagnole, et le Pays Basque, c'est l'industrie, c'est la sidérurgie, et Franco en a besoin. Franco charge le général Mola de mener les opérations. Il met à sa disposition un millier de fantassins et une cinquantaine d'avions, et il a aussi le soutien de l'Italie fasciste de Mussolini, et Hitler et les Allemands de la Légion Condor, 6500 volontaires avec des blindés et des chasseurs-bombardiers. L'ultimatum est lancé, refusé par les Basques, et le 26 avril, ordre est donc donné d'écraser Guernica et une autre bourgade dont on a oublié le nom, Durango. Et les avions de la Légion Condor décollent. Mais Franco va faire croire que les massacres ont été commis par les Rouges. La presse reprend aussitôt cette affirmation. On sait moins ça aujourd'hui. Le président du gouvernement basque affirme aussitôt de son côté qu'au contraire, ce sont des avions allemands au service des franquistes qui ont écrasé Guernica. Mais la mystification s'installe. La droite qui soutient Franco et Hitler, cette droite qui disait « mieux vaut Hitler que le Front populaire », soutient que c'est un coup des bolcheviks. Et la falsification durera longtemps, mais malgré négation et dénégation, les preuves formelles aujourd'hui sont fournies, et car c'est tout récemment que la vérité a été reconnue sur ces crimes qui relèvent de la stratégie militaire de la terreur, au nom de laquelle l'état-major allemand a soutenu le général Franco. À cette époque, Picasso est déjà célèbre. Le gouvernement du Front populaire espagnol l'a nommé directeur du musée du Prado de Madrid en juillet 1936. Et en juillet 37, ce même gouvernement lui passe commande d'une fresque pour le pavillon de l'Espagne à l'Exposition universelle de Paris, qui aura lieu donc en mai 1937. Et Picasso, qui vit alors à Paris, s'apprête à peindre un sujet sur la liberté de l'art. Lorsque survient le drame de Guernica, la ville sainte, n'oublions jamais, la ville sainte de Guernica, grand symbole de la culture basque. Alors Picasso aussitôt se lance dans cette composition géante. Il va travailler jour et nuit pendant 5 semaines, et on peut voir aujourd'hui toute les étapes de son travail à travers les dessins, les esquisses. On dispose de 45 études qu'on peut voir, et aussi d'une série de photos de la compagne d'alors de Picasso, Dora Maar. Si bien qu'on voit tout le processus de ce travail, les repentirs, les hésitations, les interrogations, les réponses que Picasso donne aux questions qu'il se pose lui-même. Et le 9 mai 1937, il passe à l'exécution de la toile elle-même. Le 4 juin, la toile est inaugurée. Donc, moins d'un mois pour exécuter cette fresque. 7,82 m sur 3,51 m, le chef-d'œuvre du XXe siècle. Et depuis, on peut se dire que depuis 70 ans, pour des générations, Guernica, c'est pas seulement une peinture ni un chef-d'œuvre, c'est le symbole de l'engagement. C'est Guernica, ça veut dire qu'on ne peut pas se taire, que ne rien dire souvent, c'est être complice, que la neutralité est un crime, surtout lorsqu'on sait. Voilà aussi, et peut-être d'abord, ce que dit le Guernica de Picasso. Et en cela, c'est une victoire. Les milliers de martyrs de Guernica, les innocents, les civils tués, brûlés par les bombes incendiaires, ne sont pas morts en vain si nous écoutons ce que dit Guernica, ce que dit Picasso au nom de ceux de Guernica. Alors, je vous l'avais dit, un deuxième sujet dans cette heure de là-bas si j'y suis, avec le livre d'Ignacio Ramonet qui sort ces temps-ci sur Fidel Castro. Fidel Castro, une bibliographie à deux voix. Pendant des mois, Ignacio Ramonet a parlé avec Fidel Castro, ou plutôt c'est Fidel Castro qui a parlé à Ignacio Ramonet et qui lui a raconté, eh bien, sa vie, son œuvre, son parcours. Et, eh bien, ce livre est fait de ces entretiens. Alors, bien évidemment, dès qu'on dit Fidel Castro, aussitôt, il y a le mot dictateur, il y a le mot Cuba qui arrive tout de suite dans les esprits. Chacun là-dessus a une position bien ferme, dénonce ou au contraire approuve, mais enfin je pense qu'en France la dénonciation est plus forte quand même que l'approbation. Et donc c'est dire, si sur un sujet aussi passionnel et quand même relativement méconnu, bah, vous allez vous en rendre compte, ça mérite qu'on en parle et qu'on se penche sur ce sujet. On avait consacré il y a quelques années une série de reportages à Cuba. C'était le début du basculement, le début de l'ouverture au tourisme et aux billets verts à Cuba. Je me souviens de ces moments, de ces reportages et de vos réactions qui étaient très passionnelles, très passionnées. Tantôt nous étions d'horribles staliniens au service du pire et des goulags, et tantôt on était des lâches qui trahissions la cause cubaine. Bon, on s'attend donc à des réactions passionnées. Mais écoutez d'abord cet entretien donc avec Ignacio Ramonet, Fidel Castro, biographie à deux voix.
Aquí Radio Rebelde, transmitiendo desde las montañas de Oriente, territorio libre de Cuba.
Alors un sujet passionnant et passionnel, Ignacio Ramonet. Deux mots sur la couverture de ce bouquin, Fidel Castro. Et alors, on dit Fidel Castro, et immédiatement, je sens les auditeurs de là-bas, si j'y suis, qui se divisent en deux camps, dont on ne va pas donner les proportions ni la taille, mais qui se disent « Quelle horreur, quel salaud, c'est un dictateur !» etc. Et puis d'autres pour qui c'est le contraire, pour qui Fidel Castro est tout à fait autre chose. Première question, pourquoi, selon vous, pourquoi est-ce que ce sujet et ce personnage est aussi passionnel aujourd'hui ?
Alors effectivement, il faut souligner l'absurde, je dirais même, de la passion autour de Cuba. Cuba est un petit pays qui n'a aucune richesse. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de métaux rares et un peu de nickel. Bon, c'est un pays qui produit du sucre et du tabac, d'excellents cigares et du très bon rhum qu'on tire du sucre, mais c'est un pays essentiellement de richesse agricole, caractéristique d'ailleurs des pays, disons, qui ont été longtemps colonisés. Pourquoi cette passion autour de Cuba ? Il ne se passe pas un jour, pour ainsi dire, en tout cas pas une semaine, sans que les grands médias français parlent de Cuba. On parle plus de Cuba dans les grands médias français que du Brésil ou du Mexique, un des géants économiques du monde. Alors, pour quelle raison il y a cette passion autour de Cuba ? Alors, c'est une passion qui ne peut être que politique, bien entendu. C'est-à-dire que Cuba est effectivement un pôle et une référence politique de premier ordre. Cuba est le seul pays en Amérique latine, qui a pu faire des réformes importantes, ce qu'on appelait la révolution cubaine, et a résisté à tous ceux qui, de l'extérieur, et notamment les États-Unis, voulaient leur empêcher de faire ces réformes. Quelles réformes ? Essentiellement dans un pays agricole, pauvre, la première réforme qu'il faut faire, c'est une réforme agraire.
500 000 paysans vont témoigner de leur foi en le destin de la patrie, vont défendre les lois révolutionnaires, la réforme agraire et la justice révolutionnaire. Ils vont dire à Fidel sur la place publique que rien n'arrêtera la révolution cubaine.
Or, en Amérique latine, tous les pays qui démocratiquement, je dis bien démocratiquement, ont essayé de faire des réformes, et notamment des réformes agraires, bien, tous ces gouvernements ont été renversés, tous sans exception.
Y compris l'actuel gouvernement brésilien, malgré Lula et sa popularité, c'est un homme de gauche, on pourra dire tout ce qu'on veut.
Indiscutablement.
Indiscutablement, n'arrive pas à mener une réforme concernant la terre.
Il n'y arrive pas, alors qu'il est appuyé par l'organisation, disons, la plus importante d'Amérique latine, du point de vue du mouvement social, comme le mouvement des sans terre, qu'il a soutenu. Il n'y arrive pas. Et disons, en 1954, au Guatemala, Jacobo Arbenz, qui était élu démocratiquement, a voulu faire une réforme agraire. Il a été renversé par un coup d'État militaire financé, organisé par les États-Unis. En 1964, au Brésil, João Goulart a voulu faire des réformes, en particulier nationaliser, faire la réforme agraire. Déjà, il a été renversé par un coup d'État militaire. Ils ont instauré une dictature militaire très connue. En 1965, en République dominicaine, le président Juan Bosch, élu démocratiquement, a voulu faire une réforme agraire en République dominicaine. Il y a eu une intervention directe des États-Unis. Et en 1973, on se souvient de ce qui s'est passé au Chili quand Allende, démocratiquement élu, a essayé de faire des réformes. Fidel Castro est le seul qui a résisté à une invasion américaine, et je précise que quand elle s'est produite à la baie des Cochons en 1961, il n'y avait pas encore la déclaration du socialisme. Cuba n'était que un gouvernement issu d'un mouvement, c'est-à-dire militaire et social fort, qui avait renversé une dictature, qui représentait divers courants de la société et qui voulait faire des réformes. Et donc, par conséquent, pour l'Amérique latine, aujourd'hui encore, eh bien, la révolution cubaine est effectivement le seul pays qui a pu résister et qui a pu faire des réformes qui sont indispensables dans le reste de l'Amérique latine.
On aurait dit un rêve. Le peuple de la Havane l'attendait, tout le peuple. Une immense foule avec un cri dans la gorge. Fidèle.
Et tout l'acharnement des États-Unis a consisté, pendant ces presque 50 ans, à isoler Cuba. C'est-à-dire que l'exemple de Cuba ne s'étend pas aux sociétés latino-américaines, quel qu'en soit le coût, au coup de l'installation de dictatures pratiquement dans toute l'Amérique latine, et à l'asphyxier économiquement. Il ne faut pas oublier qu'encore aujourd'hui, d'une manière unilatérale, les États-Unis maintiennent un embargo économique un blocus économique féroce, qui ne cesse d'être aggravé. Encore en décembre 2006, nous parlons de décembre 2006, de nouvelles mesures ont été prises par l'administration Bush pour resserrer encore l'asphyxie de Cuba.
L'impérialisme s'est à nouveau rendu ridicule. Une fois de plus, il s'est heurté au mur invincible du peuple armé, du peuple uni, du peuple conscient. Ici, devant la Sierra Maestra, nous nous engageons à faire de la patrie l'exemple qui fera de la Cordillère des Andes la Sierra Maestra de l'Amérique.
Ignacio Ramonet, vous évoquez il y a 20 ans, c'était la guerre froide, on avait l'URSS, on avait les deux blocs face à face, et évidemment que Cuba était un enjeu stratégique et un enjeu symbolique important.
Inter, actualité.
Au micro, Robert West. Eh bien, c'est le régime de la douche écossaise. Après l'espoir d'une détente, le ton monte à nouveau entre Moscou et Washington. Premier message, Khrouchtchev écrit à Kennedy, « Nous liquidons nos bases de Cuba si vous retirez les vôtres de Turquie. » Comme on s'y attendait, c'est le marchandage. 2 heures après, deuxième message, c'est la réponse de Kennedy à Khrouchtchev, c'est un refus. « Nous ne négocierons pas sous la menace, nous ne discuterons pas tant qu'une menace atomique subsistera à nos frontières. Démantelez d'abord vos bases à Cuba, cessez d'abord d'armer Cuba. »
Aujourd'hui, c'est terminé, cette page-là, cette page de la guerre froide est terminée. Alors, quel est l'enjeu? Pourquoi un tel acharnement? Pourquoi cette confrontation? Si ce n'est, je vois qu'une explication, vous avez commencé à y répondre, passionnelle. Mais quel est l'enjeu aujourd'hui?
Ce que beaucoup d'analystes n'ont pas pu observer, ou n'ont pas su voir, par exemple, lors de l'effondrement de l'Union soviétique, c'est que cet événement qui s'est produit, évidemment, et qui a eu des répercussions planétaires et géopolitiques mondiales, mais pour Cuba, ça représentait quoi? Ça représentait la fin de 3 cycles de dépendance à l'égard d'un empire. Car l'histoire de Cuba, c'est quoi? C'est l'histoire d'un pays qui dépend d'abord de l'Empire espagnol pendant 4 siècles, ensuite de l'Empire américain pendant 60 ans, et ensuite de l'Empire soviétique pendant 40 ans. Alors pour des raisons bien entendu différentes dans les trois cas, mais à chaque fois, 80-85% des échanges économiques se font exclusivement avec l'Empire. Quel pays aurait pu résister à ces 3 changements? Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que la jonction se fait pour la première fois de l'histoire de Cuba avec l'Amérique latine. Car Cuba, curieusement, n'est vraiment latino-américaine que maintenant, c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années. C'est un pays qui est resté en marge du mouvement latino-américain et un pays qui a été très souvent, dont les élites ont été très fascinées par le modèle déjà américain, parce que c'était une société esclavagiste et que les élites voulaient ressembler aux élites du sud des États-Unis. C'est pourquoi les élites cubaines ont toujours voulu, en réalité, en chercher une annexion avec les États-Unis depuis le 19e siècle. Et donc, finalement, la rencontre de Cuba et l'Amérique latine se fait maintenant, et elle se fait de manière spectaculaire, car il suffit de laisser voter les latino-américains et de les laisser établir de véritables démocraties pour que les gens votent pour des gouvernements, des programmes qui ressemblent et qui promettent ce qui existe à Cuba, c'est-à-dire une réforme agraire, c'est-à-dire le plein emploi, l'alphabétisation, une politique de santé importante.
Et la condition des femmes aussi.
La condition des femmes, là, bien entendu, la démarginalisation des populations noires, en tout cas, et indigènes, par ailleurs, donc qui s'est produit en particulier en Bolivie. C'est même spectaculaire que en octobre prochain, on va commémorer la mort de Che Guevara, assassiné en octobre 1967. C'est quand même formidable que 40 ans après, je veux dire, le président démocratiquement élu de la Bolivie, pour la première fois un indigène, dans son discours de prise de fonction de président, rende hommage à Che Guevara. C'est-à-dire que le sang de Che Guevara et de la révolution cubaine, les idées de la révolution cubaine n'ont pas été versées en vain.
Sur les nouveaux champs de bataille, je porterai en moi la foi que tu m'as inculquée, l'esprit révolutionnaire de mon peuple, le sentiment d'accomplir le plus sacré des devoirs,
luchar contra el imperialismo donde quiera que esté.
Lutter contre l'impérialisme où qu'il soit.
Esto reconforta.
Ceci me réconforte.
Y cura con creces cualquier desgarradura.
Et guérit les plus profondes blessures.
Digo una vez más que libero a Cuba.
Je répète une fois encore que je délivre Cuba de toute responsabilité.
Salvo la que emane de su ejemplo.
Sauf de celle qui émane de son exemple.
Si un jour
sous d'autres cieux. Survient pour moi l'heure décisive. Ma dernière pensée sera pour ce peuple et plus particulièrement pour toi.
Le 8 octobre 1967, Ernesto Che Guevara est assassiné par l'armée bolivienne sur ordre de la CIA.
Ignacio Ramonet, vous êtes journaliste, vous dirigez entre autres le monde diplomatique, vous êtes très attaché à la liberté de la presse. Or là, j'ai une fiche de Reporters sans frontières, donc des confrères, des collègues, qui présentent les prédateurs de la liberté de la presse. Et les prédateurs, parmi les prédateurs de la liberté de la presse, il y a Fidel Castro. Et Fidel Castro est accusé d'avoir, en 1989, fait condamner à mort et exécuter le général Arnaldo Ochoa, que Fidel Castro avait autrefois nommé héros de la Révolution. En 1961, Fidel Castro fait exécuter 700 personnes et arrêter 200 000 autres personnes à titre préventif. Le 11 décembre 1959, il fait condamner à 20 ans de prison son compagnon d'armes, Hubert Matos. Le 28 octobre 1959, il fait assassiner son compagnon d'armes, Camilo Cienfuegos, etc., etc. Donc, on est en présence d'un dictateur monstrueux, selon Reporters sans frontières, qui fait partie des officines qui s'acharnent, en termes de liberté de la presse, sur Cuba et sur Fidel Castro. Qu'est-ce que vous répondez à ces attaques et à ces informations? Ou à ces désinformations, comme vous voulez.
Je m'étonne qu'on n'ait pas accusé Fidel Castro d'avoir assassiné Henri IV, d'avoir guillotiné Louis XVI. On peut ajouter...
Il a tué Kennedy, il était au petit Clamart.
Ah, bien entendu, Kennedy, c'est une des accusations classiques. Donc ce n'est pas sérieux. Et disons, Reporters sans frontières, qui est une organisation qui, sur un certain nombre de, disons, de cas précis, de journalistes, est tout à fait remarquable, sur deux affaires, sur deux cas en particulier, sur Cuba et sur le Venezuela, est une organisation très critiquable. Disons que, en particulier sur le Venezuela, on ne peut pas oublier que c'est une organisation qui a soutenu les médias qui ont organisé le coup d'État contre Chavez. Sur Cuba, bien entendu, là aussi, il y a une vision extrêmement accusatrice et frontale, et c'est clair que, là encore, il y a beaucoup d'accusations sur Reporters sans frontières, sur le financement d'un certain nombre d'officines, notamment des ONG ou des prétendues ONG, National Endowment for Democracy, qui est une fausse ONG créée par Ronald Reagan. Elle finance, à travers le monde, des dizaines d'organisations, dont Reporters sans frontières. Officiellement, c'est l'administration des États-Unis qui dote cette organisation d'un fonds pour, en particulier, diffuser de l'information souvent fausse sur Cuba. Récemment, par exemple, une dizaine de journalistes ont été licenciés en Floride même, pourtant qui est le lieu où se trouvent les centres les plus actifs de propagande anti-cubaine, ont été licenciés parce qu'il a été prouvé qu'ils recevaient de l'argent de la National Endowment for Democracy. Donc je dis, sur Cuba et sur le Venezuela, au moins Reporters sans frontières n'est pas crédible, et aujourd'hui c'est une information largement admise, ou c'est une donnée largement admise.
Il faut peut-être revenir, Ignacio Ramonet, sur ce qu'a été cette révolution cubaine, parce que la figure de Guevara est très romanesque, romantique même, et ça renvoie à une épopée quand même assez fantastique. Si il y a quelque chose de passionnel toujours aujourd'hui, dès qu'on dit Cuba, dès qu'on dit Castro, c'est que l'histoire de cette révolution cubaine est quand même une épopée picaresque, formidable. Il y a quelque chose de grave qui est lié avec l'histoire, mais quelque chose aussi qui est lié avec des aventures humaines qui, à l'époque, ont enchanté et enflammé toute une génération.
Effectivement, c'est tout de même, disons, la révolution cubaine quand elle se produit. D'abord, c'est un événement énorme. D'abord, une première constatation. De Cuba, personne ne parlait, disons. Si on va chercher dans la presse dans les années 50, la première moitié des années 50, les articles sur Cuba, il n'y en a pratiquement pas. C'est un pays inexistant sur la carte du monde. Et il n'a été connu que parce que les Cubains, justement, le mouvement 26 juillet, qui a fait preuve de beaucoup d'imagination avec Fidel Castro, a fait le premier enlèvement médiatique du monde. Dans l'histoire, disons, de l'organisation, des organisations combattantes, il y avait un grand prix de La Havane sous la dictature, un grand prix de Formule 1 sous la dictature de Batista, qui était très mondain et dont la presse, effectivement, parlait un peu. Et donc, l'organisation du 26 juillet, l'organisation de Fidel Castro, enlève le plus grand coureur automobile de l'époque, qui est Fangio.
Ici Pierre Clanès à New York. De dramatiques événements se sont déroulés à Cuba à l'occasion du deuxième Grand Prix de La Havane. Quel est le but de Fidel Castro, qui mène la lutte contre le général Batista depuis que celui-ci a repris le pouvoir par un coup d'État le 10 mars 1952? On ne le sait pas. Peut-être Fidel Castro, qui tient le maquis, a-t-il voulu prouver qu'il était capable d'arrêter un événement international?
Et les médias du monde entier parlent de la disparition de Fangio. Qui a enlevé Fangio? Et 48 heures après, on le restitue. C'était un pur enlèvement médiatique. Et c'est comme ça que le monde entier apprend qu'à Cuba, il y a, disons, une résistance.
Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba.
Ici Radio Rebelde aux portes de la ville de Santiago de Cuba. Annonce très importante. Dans un instant, au micro de Radio Rebelde, le leader Máximo de la révolution cubaine, le docteur Fidel Castro, viendra à faire une déclaration d'une extrême importance.
El doctor Fidel Castro.
Le docteur Fidel Castro.
Révolution, si.
Révolution, oui.
Golpe militaire, non.
Coup militaire, non.
Golpe militaire d'Espagne.
Coup militaire contre le peuple et la révolution,
non.
Non.
El pueblo.
Le peuple.
Y muy especialmente los
et plus particulièrement tous les travailleurs de la République
deben estar atentos a Radio
doivent rester
Rebelde.
À l'écoute de Radio Rebelde et se préparer de toute urgence dans tous les centres de travail à la grève générale.
Fidel Castro avait fait un premier, il avait tenté de prendre d'assaut une caserne en 1953. Ça avait échoué, ça avait donné lieu à un véritable bain de sang de la part de la dictature de Batista. Il était parti au Mexique, où il rencontre Che Guevara, qui revient du Guatemala, où il était, qui a vécu l'intervention américaine au Guatemala. Il rencontre Fidel Castro avec Camilo Cienfuegos, et ils organisent un débarquement à Cuba. Quand ils débarquent, ils sont accueillis pratiquement par les forces de Batista, qui les décime. Il n'en reste que 12.
Le 12 décembre 1956, c'est le débarquement historique du Granma. À bord, Fidel Castro et 82 révolutionnaires. Commençait une période d'héroïsme et de sacrifices incalculables pour libérer Cuba.
À partir de ces 12 hommes, ils vont s'en prendre à une armée comme celle de l'armée de Batista, qui est une armée de 80 000 hommes, une armée équipée, entraînée par les États-Unis, par des officiers américains. C'est tout de même spectaculaire, mais non seulement militairement, mais aussi politiquement et médiatiquement. Par exemple, donc, il y a d'abord cette affaire de Fangio. Le deuxième coup médiatique génial, c'est que les forces de Batista, après ce débarquement de Castro et de ses hommes, annoncent que Fidel Castro est mort. Et or, Fidel Castro a survécu, il a constitué un noyau de guérilla quelque part dans la Sierra Maestra, et il s'arrange pour faire venir le rédacteur en chef, pas moins, du New York Times. Et Hervé Mathews, qui est une légende du journalisme, est acheminé clandestinement vers la Sierra et rencontre Fidel Castro, qui est entouré d'ailleurs de Che Guevara, etc. Et Fidel Castro le reçoit dans une tente avec un faux téléphone sur sa table. Le téléphone n'est relié à rien et il discute avec Hervé Mathews. Et de temps en temps, le téléphone sonne parce que derrière la tente, un complice déclenche la sonnerie et Fidel Castro décroche et dit « Oui, vous envoyez 200 hommes sur la colline 24. » Puis au bout d'un moment, de nouveau ça sonne et dit « Vous envoyez 350 hommes sur la colline 26, etc. » ainsi de suite. Et tout en discutant avec Mathews. Et donc Mathews s'en va et publie à la une du New York Times, pendant 3 jours de suite, l'entretien avec Fidel Castro.
Exclusif.
exclusif, qui est une révélation. La première révélation, c'est, et le titre, c'est « Fidel Castro vit, est en vie et il combat dans la Sierra ». Et d'autre part, l'autre information, c'est qu'il dispose d'une guérilla de plusieurs milliers d'hommes, quand en réalité, ils ne sont que 12. Donc, il y a, chez Fidel Castro, effectivement, on parlait de picaresque, il y a une conception de la guérilla, il invente une forme de guérilla, et en particulier sur le traitement donné, car la conception de la guérilla est une conception humaniste, c'est-à-dire que jamais les prisonniers ne sont torturés, jamais ils ne sont exécutés, les guérilleros ont des rapports avec les paysans qui sont des rapports de respect, on paye ce qu'on consomme, évidemment on ne maltraite pas les paysans, on ne viole pas les femmes, etc. Donc il y a un comportement qui fait que la guérilla attire l'ensemble des jeunes paysans qui veulent changer de condition, parce que la Révolution a publié très vite un texte qui s'appelle l'Histoire m'absoudra, et qui est le programme. Et dans ce programme, il est dit que la première chose que fera le nouveau gouvernement une fois la dictature renversée, eh bien ce sera une réforme agraire. Donc c'est une guérilla qui va essayer d'avoir un comportement tout à fait correct, et ce sera payant.
Fidel Castro tient son premier grand discours dans la capitale. Comme par miracle, une nuée de colombes se pose sur ses épaules. Pour les caméras, c'est du pain béni. Et pour le peuple, la preuve qu'il est le nouveau messie. Le mythe du leader Maximo est né. Ce soir-là, Fidel promet qu'il y aura des élections aussitôt que possible. Elles n'ont toujours pas eu lieu.
Porque nosotros jamais defraudaremos a nuestro pueblo.
Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, corajidos bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel.
Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Aquí pensaban seguir jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir. Y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel.
Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Si je repense à ces années 60, même 70, l'enthousiasme que vous évoquez retombe et ternit souvent devant le manque de démocratie. Est-ce que ce manque de démocratie continue à Cuba? Fidel est au pouvoir depuis 50 ans et sans partage. Et est-ce qu'on peut expliquer, est-ce qu'on peut se contenter d'expliquer ce manque de démocratie, ce manque d'application des droits de l'homme uniquement par la pression de la propagande et par l'adversité des États-Unis?
Je pense qu'on ne peut pas, en tout cas, ne pas tenir compte de cette pression américaine constante. C'est-à-dire qu'on a vu que c'est une pression américaine qui n'est pas seulement un blocus unilatéral. Hein, c'est-à-dire que c'est un blocus qui est condamné par les Nations Unies, massivement. En novembre dernier encore, 183 pays sur 192 ont condamné les États-Unis et ont demandé aux États-Unis de lever le blocus de Cuba. Ce que les États-Unis refusent de faire depuis 50 ans. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les commandos, les attentats, les expéditions constantes. Il faut voir que, encore récemment, Fidel Castro confie une mission à Gabriel Garcia Marquez, qui a de bonnes relations avec le président Clinton. Il lui remet un dossier dans lequel est exposée la situation d'un certain nombre d'officines, nous parlons de 1998, donc il y a moins de 10 ans, un certain nombre d'officines en Floride, qui continue d'organiser des attentats, etc., avec la description du lieu, de l'endroit, etc., où ça se trouve. Garcia Marquez va à Washington, remet ce dossier à l'entourage de Clinton. Clinton consulte le FBI étudie ce dossier et décide de venir à La Havane voir les services de renseignement pour vérifier s'il s'agit vraiment d'informations importantes. Les services de sécurité lui disent « Voilà, nous connaissons ces informations parce que nous avons 5 agents à nous qui sont infiltrés dans ces et qui sont prêts à vous donner davantage de renseignements. » Le FBI repart avec ses renseignements et que fait-il ? Il arrête ces 5 Cubains qui sont condamnés à la prison à perpétuité. Ils sont actuellement condamnés à la prison à perpétuité au nom de la lutte contre le terrorisme, alors que c'était des personnes qui luttaient pour éviter le terrorisme. Donc voilà ceci pour dire qu'on ne peut pas ne pas tenir compte de cette situation.
On va finir cet entretien en commençant par le début, c'est-à-dire le bouquin. Parce qu'on est en train de parler de votre livre. Enfin, votre livre avec quand même un personnage important qui s'appelle Fidel Castro, biographie à deux voix, 100 heures avec Fidel Castro. C'est quand même un sacré boulot. Ça s'est passé comment, ces entretiens, les conditions des entretiens, pourquoi, comment?
Alors, ça s'est passé...
On est en train de dire que beaucoup de journalistes à travers le monde critiquent avec férocité et Castro et le régime cubain, mais enfin, la plupart d'entre eux et d'entre nous auraient aimé être à votre place. C'est-à-dire interviewer Castro.
Je pense que beaucoup de journalistes aimeraient pour une raison simple, c'est que Fidel Castro est tout de même le dernier, disons, d'une génération de dirigeants politiques qui a vécu des événements considérables. Il ne reste personne à peu près de son envergure. J'ai retrouvé pour le livre cette référence, c'est que quand Fidel Castro arrive à La Havane au moment de la victoire de la Révolution, le 8 janvier 1959, c'est exactement la date où le général de Gaulle assume ses fonctions de premier président de la 5e République en France, le 8 janvier 1959. Donc c'est un peu comme si le général de Gaulle était toujours là, bien entendu, ou Fidel Castro a pu parcourir ce demi-siècle, connaître Kennedy, connaître Khrushchev, voir tout ce qui s'est passé. C'était passionnant. Donc ça m'a demandé une année de préparation, 3 années d'entretien et une année d'organisation des entretiens. Parce qu'il est clair que les entretiens, tels qu'ils paraissent dans le livre, ne se sont pas déroulés dans cet ordre.
Non, vous dites qu'il a une pensée arborescente, c'est-à-dire qu'il saute d'un sujet à l'autre.
Il saute d'un sujet à l'autre, il mélange, il répète, bien entendu, surtout quand on se revoit. Et donc, par conséquent, il a fallu ordonner ça de manière à ce que ça présente...
Vous dites biographie, vous dites biographie à deux voix, vous ne dites pas autobiographie. Est-ce qu'il a corrigé, est-ce qu'il a relu, revu?
Oui, oui.
Alors, vous dites non pour les éditions espagnoles, mais oui pour cette édition-là.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que le titre que j'avais proposé au départ était « Autobiographie à deux voix ». Puisqu'il est clair que c'est son autobiographie, puisqu'il n'a pas écrit ses mémoires, il n'a pas écrit sa biographie. Mais il n'a pas souhaité ça, donc on a conservé « Biographie à deux voix ». Et c'est vrai que la première édition, il n'avait pas eu le temps de la revoir, alors que moi je souhaitais qu'il la revoie, pour des raisons évidentes. C'est qu'il pouvait ajouter des éléments, puis d'autre part, il pouvait en quelque sorte confirmer que c'était bien lui qui disait ce qu'il disait, puisqu'il parle pour la première fois de beaucoup de thèmes qu'il n'avait jamais abordés au cours de son histoire. Ce qui fait que d'ailleurs l'édition cubaine du livre circule beaucoup, parce que les gens retrouvent là des questions que lui-même n'avait jamais abordées. Et on n'a pas parlé de sa vie sentimentale, je crois que ça pourrait donner lieu à un autre livre. Là.
Bien sûr, Ramonet, merci. Voilà, merci. Je rappelle le titre encore une fois du bouquin de Ignacio Ramonet, Fidel Castro, biographie à deux voix aux éditions Fayard Galilée. Merci à François Berchenko ainsi qu'à Lina. Le spectacle La Mirada, c'est là où vous trouverez les extraits sonores du reportage d'Antoine Chao du début de cette heure. Cuba, histoire d'un mythe de Marie-Monique Robin, dans laquelle vous trouverez également des extraits sonores de l'émission d'aujourd'hui. Et puis concernant Picasso, je vous conseille Et Picasso
Picasso, peint Guernica. C'est un beau livre qui vient de sortir, destiné aux enfants, dans les éditions Rue du Monde, avec une reproduction d'une des toiles de Picasso que je préfère, qui est la pêche de nuit à Antibes, avec le bout de la langue de la fille de droite sur les boules de glace. Et également Picasso, peint Guernica. Non, Pablo Picasso, chez Tachène. C'est deux volumes. Et dans le deuxième volume, on a toutes les toiles en cours d'exécution, photographié par Dora Maar. Voilà, vous trouvez tout ça sur le site de Là-bas, si j'y suis, sur franceinter.com ou bien sur là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter les archives de Là-bas, si j'y suis. La technique aujourd'hui, Romain Lucquens et Claudine Lapersonne. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyenne qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, avec un montage de Renaud Lambert et des traductions de Renaud Lambert, assisté de Charlotte Perry. Et Christophe Imbert se tient près du répondeur jusqu'à demain sans bouger, au 01 56 40 37 37. Il attend vos messages.